Radio Clémérance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale intitulée Animatis. Durant 30 minutes, nous arrêterons sur l'enseignement et l'apprentissage à l'ère du numérique. À travers divers reportages, micro-trottoirs et débats, nous tenterons de vous éclairer au mieux sur ces nouvelles pratiques. Bonjour Najat.
Bonjour Gaël.
De quoi allons-nous parler précisément ?
Nous commencerons par un état des lieux de l'usage des pratiques numériques qui se font actuellement dans l'enseignement. Avant de nous intéresser plus précisément à ces pratiques et ces usages, nous clôturerons cette émission par deux débats. Nous soulèverons d'abord la question des inégalités, des handicaps et de l'apprentissage à l'ère des nouveaux moyens de communication. Nos invités s'interrogeront ensuite sur l'intégration d'une nouvelle matière, l'éducation aux médias et à l'information, plus communément appelée l'EMI, dans l'emploi du temps de nos élèves.
Vaste programme. Nous retrouverons également vos rubriques habituelles, à savoir le flash info de Sandrine et la chronique de Julien.
Radio Clémérance.
Benoît et Mathieu ont rencontré des élèves et des professeurs, tous utilisateurs de nouvelles technologies au sein du lycée professionnel Europe à Reims.
On vient travailler à peu près 10 heures par semaine en salle informatique.
Ça leur permet d'avoir dans l'établissement déjà un lieu et des outils qui permettent de réaliser leurs travaux.
Monsieur Macou, professeur documentaliste.
J'ai développé dans le cadre de l'accompagnement personnalisé un travail un peu plus particulier avec les élèves. Il m'a semblé opportun et important de pouvoir systématiser dans le cadre de l'accompagnement personnalisé une maîtrise des outils de bureautique de façon à ce que le travail rendu corresponde véritablement à l'investissement de l'élève.
Pour moi, travailler sur informatique, c'est aidant.
Utile.
Cool.
C'est plus ludique.
Ça rame.
Ça bug.
Ça gère.
C'est cool.
Madame, c'est quoi votre passe ? Je peux pas dépasser, je peux rien faire.
Moi, j'ai commencé, il n'y avait même pas d'ordinateur.
Madame Bastien Sig, professeur d'art appliqué.
Travaillons avec le logiciel Word, mais en l'occurrence avec les BTS, on travaille avec le Paint si on a besoin de travailler un peu d'image. On a un logiciel qui s'appelle Photoshop, qui est vraiment le travail de l'image pure. Illustrator, on ne l'a pas, mais on aurait aimé. Et puis on a Scribus aussi, qui nous aide à travailler, notamment pour les BTS, pour faire de la mise en page, de pages de magazines.
Ah bah si, en fait, on l'a déjà fait.
Donc vous rajoutez les dernières photos, là ?
Ouais.
Par rapport au projet qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est l'image.
Justine, en BTS esthétique.
Par rapport à la publicité. Donc on prend des photos et pour que notre professeur puisse les corriger, on les transfère sur un ordinateur. Aussi, à part ce projet-là, elle nous demande régulièrement de rendre des devoirs en informatique qu'on met sur un dossier et qu'elle les récupère ensuite elle-même par son propre ordinateur.
Benoît Brocard,
Mathieu Pouril,
pour Radio Clémérance.
Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Au cours de ce reportage, vous avez pu soulever différents problèmes. Dites-nous en plus.
Oui, la professeure d'art appliqué, qui est au demeurant très satisfaite quand même de ses conditions de travail, souligne des problèmes que beaucoup de professeurs peuvent rencontrer, c'est-à-dire que l'ordinateur, c'est très bien, mais l'imprimante, par exemple, elle ne peut pas s'en servir au maximum de ce qu'elle voudrait, donc un problème de moyens assez récurrent. Le problème assez classique des salles informatiques qui rament, bien sûr, et donc ça peut détruire une heure de cours, et une obsolescence assez rapide des matériels, d'autant plus qu'elle prépare des élèves vraiment à s'intégrer dans la vie réelle. Tous les 5 ans, disons que le matériel devient obsolète et il faut le changer. D'ailleurs, Gaël et Najat, vous qui êtes au courant de beaucoup de choses, vous connaissez la différence entre Windows XP et un clou ?
Absolument pas.
Les deux plantes.
Ah oui, logique.
Merci.
Merci à toi. Tout de suite, le Flash Info avec Sandrine, qui aujourd'hui est intéressée au numérique à l'école.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Alors que la ministre de l'Éducation lance une vaste consultation nationale sur le numérique pour l'éducation, on fait un point sur cette question. L'équipement informatique a doublé en 10 ans dans les collèges publics. Le matériel et les accès aux ressources ont connu une hausse importante entre 2005 et 2014. Le nombre d'ordinateurs est passé de 12 à 22 pour 100 élèves, même si le nombre de portables est moindre. Notons aussi que la quasi-totalité des collèges publics mentionnent les TIS dans leur projet d'établissement et qu'en 2014, deux tiers des collèges disposent d'un ENT contre la moitié en 2011. Quant à la Champagne-Ardenne, celle-ci paraît bien équipée, avec un déploiement des ENT qui touche trois quarts des élèves dans l'académie. Signalons à cette occasion que le forum ATIS se déroulera le 18 février à Reims. Au programme, échanges, rencontres, débats et ateliers autour du numérique. Une question reste cependant en suspens. Quel sera l'impact réel du numérique sur les apprentissages et la réussite des élèves ?
Merci Sandrine. Tout de suite, nous entamons la deuxième partie de notre émission.
Radio Clémirens.
Évoquons à présent avec Nadine et Adeline les pratiques et les usages en cours aujourd'hui dans nos écoles.
Donc avec Nadine, nous sommes allés interroger des enseignants et des lycéens afin de savoir quels outils ils utilisent en classe.
Le vidéoprojecteur, image active.
Numérique, je les utilise peu.
Internet.
Tout ce qui est ordinateur, informatique pour pouvoir travailler.
Le truc que j'utilise principalement en classe, ce sont les ordinateurs.
D'accord.
Fixe. Mon téléphone. Ordinateur, Word, Excel.
Mon téléphone.
L'ordinateur.
Ils nous ont également dit ce qu'ils pensaient et ce qu'ils pensent de cette utilisation du numérique.
Pour capter l'attention, il faut avoir un rétroprojecteur, un vidéo qui fonctionne et qui soit avec la télécommande.
L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas s'en passer.
Des outils complexes que nos élèves ne maîtrisent pas.
Bah, des fois, on prend plus de temps qu'il n'en faut. Et c'est vrai qu'on peut trouver plus de choses que dans un simple bouquin parfois. Donc c'est vrai que c'est plus pratique, mais il y a aussi des inconvénients.
C'est souvent une perte de temps.
Pour faire des diaporamas.
Pour chercher des documents, pour illustrer leurs cours.
C'est plus propre quand il y a quelque chose à rendre.
Pour avoir une page internet, c'est très très long.
Quand les ordinateurs ne fonctionnent pas, bah, c'est problématique.
Ça permet de réunir plusieurs informations d'un coup.
Ça nous fait améliorer les cours.
On le voit, les outils numériques dont disposent les établissements scolaires sont diversement ressentis selon les personnes. Et ils témoignent en tout cas d'une grande variété. Voici l'exemple du TBI, le tableau blanc interactif.
Durant mes cours, j'utilise ce qu'on peut utiliser traditionnellement avec les ordinateurs, emmener les élèves en salle informatique, etc. J'ai notamment utilisé un outil qui s'appelle le TBI, donc c'est le tableau blanc interactif, qui est particulièrement intéressant parce qu'il permet de mettre les élèves en activité un petit peu différemment. Donc, en fait, c'est une sorte de logiciel qui combine un petit peu ce qu'on peut utiliser traditionnellement, Word, les PowerPoint, etc., qui permet d'écrire dessus avec un stylet, qui permet aux élèves d'être en interaction, de venir au tableau, de déplacer directement des choses avec le curseur, bref, d'allier un petit peu les outils numériques d'aujourd'hui à la pratique de mes enseignements.
Merci Adeline. Arrêtons-nous maintenant sur un projet concret de l'utilisation du numérique au lycée professionnel Europe. Rencontre avec Maxime Macou, documentaliste, initiateur d'un projet e-twinning entre des élèves du lycée et ceux d'un lycée italien.
Alors, qu'est-ce que c'est que e-twinning ? Alors, il faut savoir que e-twinning, un petit récapitulatif, si on en revient à la réforme des lycées en 2010, l'un des axes proposés était de développer la mobilité physique ou virtuelle de nos élèves. Donc effectivement, e-twinning est l'outil qui va permettre cette mobilité virtuelle de nos élèves et donc les raccrocher à l'usage du numérique. E-twinning est simplement une plateforme d'accompagnement pédagogique qui a été mise en place à l'échelle européenne. Donc elle a pour but de permettre aux enseignants donc de développer des partenariats avec d'autres établissements en Europe. Alors, pour ce qui concerne l'établissement dans lequel j'exerce, à savoir le lycée Europe, nous avons donc initié ce projet avec une classe de première esthétique. Donc, avec leur professeur d'anglais notamment, nous sommes rentrés en contact avec un établissement en Sicile. Alors, l'établissement s'appelle ISS Motura. Il est basé dans la ville de Castagniceta. En quoi ça consiste ? Il s'agit essentiellement donc de doubler des dialogues sur des sitcoms de pays respectifs. Les objectifs de ce projet sont effectivement donc d'amener les élèves du lycée Europe à rentrer en contact avec des élèves de leur âge dans un autre établissement. Alors, l'objet concrètement, ça s'est traduit par quoi? Alors, les élèves ont eu à se présenter via cette plateforme sous la forme d'un portrait chinois, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé à leurs homologues italiens un portrait essayant d'expliquer qui ils sont et inversement. Alors, ça a été la première étape qui a amené effectivement les élèves par la suite à rentrer en contact les uns avec les autres. Le bilan est forcément positif. Très simplement, je me rappelle au début du projet quand il a été présenté aux élèves. Donc effectivement, les élèves étaient assez interloqués en se disant, bon, voilà une langue qu'on apprend, qu'on a du mal à maîtriser déjà à l'écrit, et que maintenant, il faut l'exprimer à l'oral. Donc, on leur a quand même bien expliqué que ce n'est pas si compliqué que ça, que d'autant qu'ils auront en face d'eux et des élèves qui ne sont pas anglophones à la base. Donc déjà, ils sont sur un pied d'égalité. Donc petit à petit, ils se sont fait à l'idée. Et bien évidemment, alors, le plus intéressant, ça a été la production des dialogues. Donc, effectivement, les premières fois, on est hésitant, on n'arrive pas à s'exprimer. Et puis petit à petit, on prend de l'assurance et puis on se jette dans le bain. Et puis après tout, on avance. Et au final, ils se sont rendus compte que ça les a désinhibés, donc de façon à ce que ça leur permet finalement de pouvoir s'exprimer en anglais sans avoir la crainte d'être jugé sur la qualité de la langue. Bien sûr, la qualité de la langue est importante, mais ce qui est important dans la démarche au départ, c'était qu'ils puissent communiquer et que forcément, par la suite, la correction de la langue viendra.
Une interview réalisée par Jérôme, tout de suite le débat.
Radio Clémirens.
Pour débattre autour de la table, trois invités, bonjour.
Bonjour.
Adeline, vous êtes professeure des écoles dans un établissement régional d'enseignement adapté à Châlons-en-Champagne. Nadine, quant à vous, vous êtes professeure de lettres au collège de Rilly-la-Montagne. Vous vous faites aujourd'hui l'avocate du diable. Enfin, Jérôme, vous êtes professeur d'histoire à Signy-l'Abbaye dans les Ardennes.
Le numérique est une véritable opportunité pour l'école, selon Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Elle a déclaré que c'était un moyen précieux de répondre aux défis majeurs que l'école rencontre aujourd'hui, à savoir la réduction des inégalités scolaires, le décrochage, la démotivation. Dans quelle mesure pouvez-vous confirmer ou infirmer ces propos et quel usage se fait aujourd'hui de l'outil numérique dans nos établissements scolaires ?
Alors personnellement, je suis globalement tout à fait d'accord avec les propos de la ministre. Je pense que le numérique va permettre de raccrocher des élèves en difficulté en faisant des activités différentes de ce qu'on fait d'habitude par l'intermédiaire de la salle informatique. On peut les faire travailler autrement sur des images en histoire des arts, par exemple avec des logiciels comme Images Actives, ou les faire leur faire réaliser des cartes mentales. Tout ça permet d'individualiser l'aide qu'on va leur apporter pendant le cours, en fait.
Excusez-moi, mais la question se pose de l'efficacité de ces outils numériques vis-à-vis des élèves en situation de handicap, puisque de nombreux enseignants constatent que finalement ce qu'on croyait être une bonne idée, une bonne solution, à savoir apporter des outils efficaces aux élèves les plus en difficulté, en particulier les élèves handicapés, s'avère au quotidien quelque chose de très difficile à mener. On s'imaginait que l'accès au clavier, par exemple, allait résoudre tous les problèmes liés à la calligraphie, le fait que les élèves n'aient plus à écrire avec un crayon sur une feuille de papier, et on s'aperçoit qu'au contraire, ça génère d'énormes difficultés. Les élèves ont du mal à se retrouver sur ces claviers, ça devient difficile pour eux, ils sont perdus.
C'est tout à fait ça. Par exemple, pour les élèves atteints de 10, ils ont déjà beaucoup de mal à structurer tous leurs apprentissages, à structurer un cahier ou autre. Le fait de rajouter un ordinateur avec un écran, un clavier, une souris, de nombreuses informations, ça les perturbe encore plus.
Donc, au contraire, je pense que, par exemple, pour des élèves 10, l'usage de l'outil informatique va leur permettre de travailler autrement et notamment en utilisant plutôt le son, l'audio que l'écrit, va pouvoir leur permettre de valoriser ce qu'ils vont faire. Ils vont pouvoir, par exemple, réviser en écoutant des podcasts ou enregistrer des réponses alors que l'écrit, justement, est un problème pour eux.
Alors, il est vrai qu'on facilite cet accès à la culture d'une certaine façon en proposant à ces élèves d'écouter des romans auxquels finalement ils n'auraient pas forcément la possibilité de se raccrocher, mais est-ce que c'est pas aussi d'une certaine façon leur couper tout espoir d'accéder un jour à cette lecture qui est quand même indispensable dans le monde dans lequel nous vivons?
Donc je pense que c'est complémentaire hein, d'autres activités habituelles et qui, pour les aider à travailler quand même comme les autres élèves là où ils ont des difficultés.
Il y a aussi ce problème de l'écriture hein, finalement. Écrire, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est une tâche extrêmement complexe qui fait appel à des choses de l'ordre de la mémorisation, la planification, l'organisation. Et on se dit bien que des élèves en difficulté butent sur ces tâches, quel que soit le canal par lequel on va les amener à effectuer cette tâche d'écriture. Les problèmes finalement seront les mêmes et l'outil, ce gadget informatique ne les résoudra pas.
Merci à tous pour votre intervention. Le débat reste ouvert. À suivre un second débat, cette fois sur l'éducation aux médias et à l'information. Mais avant cela, la chronique de Julien.
Le numérique et l'école, mariage ou divorce ? Hier, nous construisions des dossiers sur des sujets de notre choix. Peu importe le sujet, tout était prétexte à composer des dossiers dans la salle info. L'objectif était alors de passer d'un travail écrit, vu en classe, au support numérique. Je me souviens alors de ce professeur d'informatique, formidable, en classe de seconde au lycée François Bazin de Charleville-Mézières. Au cours de la semaine, une heure entière était consacrée à l'apprentissage des logiciels Word, Excel, PowerPoint, mais aussi à l'utilisation d'Internet. « Soulignez, justifiez votre texte, fusionnez les cellules !» s'exclamait souvent ce professeur. Il y avait bien un réel apprentissage des logiciels en plus de l'apprentissage disciplinaire. Aujourd'hui, les outils numériques ne manquent pas à l'école. Ici, Prezi, Image Active, là, Windows Movie Maker, et depuis hier, Audacity. De nombreux sigles inondent les établissements. TBI, ENT, TIS... Les vertus pédagogiques de l'usage de ces médias ne sont pratiquement plus à prouver, en termes d'apprentissage et de compétences à acquérir, de remotivation des élèves et de variation des activités proposées. Ces outils mettent en phase les pratiques personnelles des élèves et les pratiques scolaires. Songeons par exemple à l'ENT ou au cahier de texte numérique. Les élèves peuvent, de chez eux, avoir accès au contenu, s'informer et rendre des travaux. Les parents sont eux aussi renseignés. C'est donc une nouvelle façon de penser la relation collège-maison. À condition, bien sûr, de prendre la peine de se connecter. Les possibilités de travailler, vous l'aurez compris, sont donc plus nombreuses depuis mon expérience d'élève. À cette nuance près, peut-être, qu'aujourd'hui, le recours à ces outils suppose des prises en main toujours plus longues, plus ardues et parfois artificielles, le tout pris sur le temps de travail en classe. Le travail papier laisse peu à peu place à la mise en page où un simple clic droit suffit pour corriger une faute d'orthographe. La recherche dans Feu, l'encyclopédie ou tout l'univers et le découpage d'images dans des vieux magazines soigneusement collés dans le cahier cèdent leur place au copier-coller dans Word. Une nouvelle ère fait son apparition. Il faut s'adapter, peut-être. S'apprivoiser et cohabiter, sûrement. En tout cas, que chacun retrouve bien sa place, les uns ne devant pas se faire au détriment des autres. Et alors seulement, on atteindra la banalisation de ces instruments. Banaliser, soyons clairs. La banalisation non pas comme l'usage permanent de ces outils dans la classe dans le but de divertir les élèves, mais plutôt un usage choisi et construit en vue d'un objectif précis d'apprentissage.
Venons-en à notre second débat. L'EMI pose problème à certains enseignants et nous avons choisi d'inviter Sandrine et Benoît, tous deux professeurs documentalistes respectivement au collège de Montmort et au lycée européen Stéphane Hessel à Épernay. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Quant à vous Olivier, vous enseignez les mathématiques et les sciences au lycée Michène à Châlons-en-Champagne. Bonjour.
Bonjour Ben.
Bonjour à tous et une question simple, doit-on faire de l'EMI une nouvelle discipline ? Qui veut commencer ?
Alors, moi, je veux bien prendre la parole.
Sandrine.
Donc, on s'est aperçu lors des récents événements dans l'actualité, notamment avec l'attentat à Charlie Hebdo, l'importance de la liberté de la presse. Et on s'est rendu compte que les médias pouvaient être une tête de pont dans la liberté d'expression. Et donc, je pense qu'il faudrait mettre en place l'EMI en tant que discipline parce que l'EMI constitue à mes yeux un enjeu pour développer l'esprit critique chez les élèves et constitue vraiment un enjeu de citoyenneté qui pourrait répondre à la formation du citoyen, au développement de l'autonomie et à l'esprit critique.
Alors je ne remets pas en cause l'importance de l'EMI, mais le
classifiée en discipline impose d'avoir un programme. Ce programme risque d'être très vite obsolète du fait que le numérique, ça bouge rapidement. Et associer cette EMI à une nouvelle matière, c'est ajouter des nouvelles matières, enfin une nouvelle matière à déjà une foison de matières existantes.
Très rapidement peut-être sur l'obsolescence, je pense qu'on n'est pas sur une question d'outils et d'éduquer aux outils. Je pense qu'on est vraiment plutôt sur les pratiques et sur ces pratiques justement, on balaye l'obsolescence. Hein. On est vraiment sur l'utilisation, la compréhension du monde, la recherche d'informations, la hiérarchisation. Et je pense que ça, c'est transversal et surtout, on peut l'appliquer à toute une gamme d'outils. Finalement, on n'est pas tant sur l'outil que sur les pratiques. Voilà.
Alors je suis d'accord que c'est transversal, mais je pense que ce n'est pas réservé qu'un seul professeur et que c'est l'affaire de tous et que ce cloisonnement disciplinaire risque de nuire à l'interdisciplinarité induite par le numérique.
Alors, en fait, il ne s'agirait pas du tout de mettre en place un enseignement pour le professeur documentaliste de mettre en place un enseignement à l'EMI. Seul, il en aurait certes la responsabilité, mais bien sûr, il pourrait travailler en interdisciplinarité avec les autres collègues dans le cadre de séances pédagogiques et de projets. Évidemment, on a bien conscience que l'EMI est l'affaire de tous.
Très bien. Alors, on entend bien vos positions à toutes et à tous. Merci, en tout cas. Merci à tous nos intervenants pour leur avis éclairé autour de cette question de l'usage du numérique dans l'enseignement.
Merci aux journalistes, aux équipes techniques et au lycée Europe qui nous ont accueillis entre leurs murs.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.